On va rejaser donc du fameux combat en fin de semaine à Québec impliquant le boxeur Adonis Stevenson. Vest, il n'y a pas de nouveau sur son état de santé?
Non, pas depuis hier, effectivement.
OK. Là, on se demande un peu qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de s'informer justement. Au départ, c'était un état critique. Mm-hmm. Là, c'est un état stable.
Plus stable, oui. Mais il demeure dans un coma provoqué de façon à réduire la pression au cerveau, réduire l'activité cérébrale.
OK.
Ça réduit donc la pression au cerveau.
On va se tourner vers un médecin qui non seulement connaît ses affaires-là de santé, mais il connaît la boxe en plus. Le docteur Jean Doré, c'est un médecin sportif. C'était le médecin de David Whittom, en passant. L'autre boxeur de Québec qui, malheureusement, est décédé. Il supervise énormément de galas également de boxe amateur ici au Québec. Docteur Doré, bon matin.
Bon matin, comment allez-vous?
Ça va bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de d'Adonis Stevenson? Ça veut dire quoi quand on dit on provoque un coma pour... puis là, c'est un état stable. Est-ce qu'il peut être de même pendant des jours, pendant des semaines? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben oui, il peut être comme ça pendant des jours, des semaines. Ben là, ça reste à voir avec, avec son médecin traitant, l'intensiviste qui le supervise et qui le suit. Probablement aussi... J'imagine qu'il y a la neurochirurgie est là-dedans aussi quelque part, mais au moment où on se parle, on n'a toujours pas de diagnostic pour lui. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais on peut en déduire que M. Stevenson n'est pas là simplement pour une commotion cérébrale. Il a dû présenter une complication dans les minutes qui ont suivi son combat. Alors, c'est avec ça qu'on tergiverse depuis 3 jours. Mais qu'est-ce que vous voulez, là? Pour ce qui est de l'évolution, mais le temps arrange souvent les choses. Tant mieux si on a mentionné que son état se stabilisait. C'est probablement un bon signe, mais en même temps, il faut lui donner le temps de récupérer puis de laisser les médecins faire leur travail à son chevet, là, puis laisser toute l'équipe qui s'en occupe lui prodiguer les meilleurs soins. J'imagine que c'est ça qu'on attend, là, puis qu'on espère pour lui le meilleur dans les prochains jours.
Là, évidemment qu'on se souvient de l'histoire de David Whittom. Dans le cas d'Adonis Stevenson, là, est-ce que je sais qu'il y a certains cas en médecine que c'est les 24 premières heures ou 48 heures qui sont cruciales. Est-ce que vous connaissez d'autres cas? Pouvez-vous nous dire que des fois, ça prend une semaine et même un peu plus, puis le boxeur finit par l'individu finit par revenir à lui sans avoir de séquelles. Est-ce qu'on peut toujours espérer un scénario positif de rétablissement pour Stevenson?
On peut toujours espérer un scénario positif de rétablissement. Par contre, le temps que ça va prendre, ça, c'est autre chose. J'ai eu dans mon entourage proche assez récemment, je donnerai pas de nom, là, mais des personnes qui ont subi des traumatismes crâniens très sévères et puis qui ont presque complètement récupéré après plusieurs mois. Puis un stage à l'IRBPQ qui a duré aussi plusieurs mois. Alors, tu sais, il faut pas lancer la serviette, c'est le cas de le dire dans son cas, puis toujours garder espoir, lui envoyer notre énergie positive si on veut, puis espérer le mieux pour lui. J'imagine là que si on a dit que son état se stabilisait, quelque part, ça voulait probablement dire que les choses évoluent quelque part favorablement pour lui au moment où on se parle.
Est-ce que je me trompe en disant que chaque cas est unique, puis on peut pas se servir de d'autres exemples pour voir dans l'avenir là, les chances de réhabilitation, puis c'est quoi les risques de séquelles?
Alors ça c'est clair. Chaque cas est individuel, chaque diagnostic est particulier, et en plus, il y a aussi, j'ai mentionné lors de d'autres entrevues déjà, il y a une composante génétique là-dedans. Certaines personnes sont plus susceptibles à souffrir de commotions cérébrales et des séquelles de ça, puis d'autres sont quelque part un peu immunisées. Quelle est la différence entre les deux au niveau génétique? C'est pas clair encore. Il se fait de la recherche là-dessus. Mais si M. Stevenson, par exemple, était un candidat favorisé à ce niveau-là, peut-être que ça va l'aider dans le devenir de sa situation.
Monsieur Doré,
alors, on peut pas généraliser. On peut vraiment pas généraliser d'un cas à l'autre. Ça, c'est clair.
Et Monsieur Doré, une chose qui a été, je pense, qui a un peu frappé l'imaginaire des gens, c'était de voir qu'on pouvait se retrouver dans un état comme ça après un bon coup à la tête. Dans le cas de David Whittom, qui est malheureusement décédé, et d'Adonis Stevenson présentement, ce sont des boxeurs qui ont fait carrière à recevoir des coups à la tête. Est-ce qu'une personne peut vraiment se retrouver dans cet état-là après un seul coup? Ou ce qui explique la gravité de leurs blessures, c'est le fait qu'ils en ont reçu plusieurs sur une période de plusieurs années?
Bon, alors, pour avoir fait de l'urgence pendant 12 ans, 13 ans à temps plein, je peux vous dire que j'ai déjà vu des gens mourir suite au fait d'avoir reçu un seul coup de poing. Hein, la personne reçoit un seul coup de poing, tombe, se cogne la tête, puis là, ça provoque une hémorragie cérébrale. Là, c'est la catastrophe, ça. Il y a des cas documentés partout dans le monde de ça. Alors imaginez si vous passez votre vie à recevoir des coups de poing sur la tête, qui sont quand même des coups de poing contrôlés dans un environnement relativement contrôlé, avec parfois des casques, surtout au niveau amateur. Moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai l'occasion de faire des combats amateurs comme médecin. J'en ai vu des commotions, même dans les combats amateurs, mais aucune complication de ce genre-là. On a vu des nez cassés, des plaies, des dislocations d'épaule et des chutes au plancher, mais jamais de complications aussi graves que celles qu'on voit dans la boxe professionnelle. Parce que le cadre professionnel est complètement différent du cadre amateur. Ça, il faut que les gens se rendent compte de ça. Il faut faire la différence entre les deux. Dans la boxe amateur, dès qu'un athlète est en difficulté, l'arbitre, et les arbitres sont de plus en plus sensibilisés à ça, l'arbitre arrête le combat. Et comme médecin, puis moi comme les autres médecins qui font le même travail quand on fait des combats amateurs, on fait le même travail que l'arbitre. L'arbitre applique le règlement, mais il est également là pour protéger le boxeur. Nous, on est sur le côté du ring, puis on a la possibilité d'arrêter le combat en tout temps si on voit qu'il se passe quelque chose de pas normal. Alors le cadre est vraiment différent d'un contexte à l'autre, si on veut.
Évidemment, cet événement-là fait en sorte que les critiques de la boxe, on a beaucoup entendu hier des gens remettre en question la pertinence de ce sport-là. Des gens ont écrit « c'est un sport pour tuer, on vise la tête », tout ça. En tant que médecin, puis vous êtes impliqué dans le monde de la boxe, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui demandent, ben, à les écouter, il faudrait presque interdire la boxe. Vous répondez quoi?
Je faisais cette réflexion-là avant qu'on passe en ondes. J'étais certain que vous alliez me poser la question. Ben, je vais vous faire une allusion, cher ami.
Oui.
Actuellement, aujourd'hui, ce matin, prenez votre auto, allez à l'IUCPQ, qui est l'ancien hôpital Laval.
Oui.
Allez à l'étage de pneumologie, et aux deux étages, pardon, de pneumologie, puis regardez les patients qui sont là. Sur les deux étages au complet, puis des patients qui sont gravement malades, 95% des patients qui sont là parce qu'ils ont fumé la cigarette. Est-ce qu'on devrait interdire la cigarette? Je pense que la cigarette nous coûte pas mal plus cher comme société que la boxe. Puis il arrive pas mal plus d'accidents avec les fumeurs de cigarettes qu'avec ceux qui pratiquent la boxe. Entre vous et moi, connaissez-vous bien des fumeurs qui s'entraînent?
Non.
Personnellement, j'en connais que très peu. Par contre, tous les boxeurs que je connais, et vous, c'est pareil, vous savez qu'ils s'entraînent beaucoup.
Oui.
S'entraîner, c'est bon pour la santé. À l'occasion, il arrive un accident. C'est triste dans le cas de M. Stevenson, puis avec tous les autres boxeurs avec qui on a vécu des accidents ou des tragédies comme ça. Mais est-ce que parce que, excusez-moi, quelques-uns de ces individus-là sont vraiment pas chanceux puis qui ont couru un peu à leur perte, ça vaut la peine de tout arrêter ou on continue de faire le sport en essayant de mieux les encadrer puis de faire des meilleures évaluations pré- ou post-combat? Et ça, j'en profite, je fais du pouce là-dessus, parce que le suivi des boxeurs maintenant qui ont subi des commotions cérébrales, c'est gravement amélioré au cours des 10 dernières années avec toute la recherche qui se fait là-dessus. Les consensus de Zurich, de Berlin, les instruments qui sont mis à notre disposition pour faire l'évaluation puis le suivi de ces combattants-là. Ça a vraiment complètement changé la pratique depuis, je vous dirais, au moins les 10 dernières années.
Dans le fond, ce que vous nous dites, dites-moi si vous êtes d'accord avec l'expression suivante, elle vient pas de moi, là. Parce que tout sport, hier, on a vu des experts rappeler que ce soit le football, le soccer, la course automobile, l'alpinisme. Il y a d'autres sports également qui comportent des risques. Faire du sport, c'est toujours un peu dangereux, mais le plus dangereux, c'est de ne pas faire de sport.
Mon Dieu, vous êtes quasiment un kinésiologue. Quand vous entendez.
Non, mais elle vient pas de moi. C'est quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Vous parliez de l'étage de pneumologie, mais à mon avis, si on va dans les hôpitaux et on voit tous les gens qui souffrent d'obésité ou d'autres problèmes reliés au fait qu'on est sédentaire et on bouge pas, ça, on n'en parle jamais, mais c'est bien plus dangereux que la boxe.
J'admire votre lucidité, cher ami.
Alors,
on dit que qu'être sédentaire, puisqu'on parle de ça, c'est aussi dangereux pour la santé que de fumer un paquet de cigarettes par jour. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants depuis des années. Et c'est une autre façon de voir les choses aussi.
Ça n'empêche pas qu'il faut bien encadrer. Si on revient un peu juste au combat d'Adonis en terminant, là, vous étiez là sans être directement impliqué. Est-ce que vous pensez que le protocole a été bien suivi? Reste qu'il a eu le temps de se lever, il est allé au vestiaire, il a pris sa douche. Est-ce qu'on aurait pu l'envoyer à l'hôpital avant?
Là, je vais vous expliquer quelque chose, puis je vais revenir là-dessus en vous disant que j'ai aucune hésitation à dire ou à penser que le protocole a été bien suivi. Je vais vous rappeler qu'en neurologie puis en neurochirurgie spécialement, il y a un état qu'on appelle l'intervalle lucide, d'accord? Dans le cas d'Adonis Stevenson, dans le cas de mon ancien patient David Whitten, il s'est passé la même chose. Le patient ou le boxeur en question a reçu un traumatisme sur la tête. Initialement, c'est probablement une commotion. Et puis, une commotion, on récupère en général assez rapidement de
ouais,
ça.
Ouais.
Et là, est-ce qu'il s'est développé une autre lésion dans la tête à ce moment-là, la lésion qui peut progresser tranquillement et puis qui va amener des symptômes supplémentaires? Il y a un intervalle entre les deux. Alors, cet intervalle-là, on ne peut pas le deviner. On ne sait même pas qu'il va arriver. Mais au moins, je peux vous dire que dans le cas d'Adonis Stevenson, on a pris la bonne décision. Les médecins qui étaient là sur place, parce que moi, j'étais là, mais j'étais là seulement en deuxième ligne. C'est pas moi qui me suis occupé de ça. Ils ont pris la bonne décision. Ils n'auraient sûrement pas pu penser qu'il allait se détériorer, puisqu'après le combat, il allait relativement bien. Il a parlé à ses entraîneurs, à ses coachs, à ses promoteurs, puis tout allait bien. Et puis, soudainement, il s'est mis à se détériorer. Ben ça, malheureusement, ça fait partie de l'évolution de certains de ces cas-là, de ces traumatismes crâniens-là qui des fois, se détériorent. Alors, faut pas essayer de mettre le blâme sur personne. Je suis certain à 100%. Quand on connaît l'organisation du Centre Vidéotron, je vais vous dire, là, il y a aucune hésitation à penser que tout a été fait dans l'ordre, ça a été respecté, puis qu'on s'est occupé de lui promptement. Actuellement, il reçoit les meilleurs soins possibles pour sa condition. Ça, je suis convaincu de ça.
Est-ce que dans le protocole de la Régie de la sécurité dans les sports, c'était prévu qu'il ait de toute façon à l'hôpital subir des tests, étant donné qu'il a subi un knock-out?
Ça, par contre, je ne pourrais pas vous dire ça. Moi, je ne suis pas un médecin de la Régie, si vous voulez. Il y avait deux médecins au moins ce soir-là, et je peux vous dire aussi qu'on avait... Contrairement à d'autres événements, il y avait deux paramédics avec l'ambulance sur place au cas où il arriverait ce genre de situation-là. Et c'est ce qui est arrivé. On a été très prévoyants. Alors, à ce moment-là, à partir du moment où un boxeur se détériore ou qu'un ça aurait pu même être un spectateur, on était très occupés. On est très, très équipés sur place
pour faire face à la situation. À l'événement.
C'est ce qui est arrivé. Okay. Absolument.
Docteur Doré, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Bonne journée, au plaisir à tous.
Merci. Docteur Jean Doré, médecin sportif, il nous parlait évidemment des événements en fin de semaine avec Adonis Stevenson. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ben oui, la boxe, c'est dangereux. Mais il faut pas oublier que les gens qui pratiquent ce sport-là, d'abord, sont consentants. Là.
Mm-hmm.
Ils s'entraînent, ils ont un meilleur cardio que toutes nous autres. Mais oui, les coups à la tête, il y a certains risques, comme dans d'autres sports également. Le plus dangereux, c'est de rien faire. Mais évidemment, on blâmera pas ces gens-là qui vont nous coûter une fortune en frais de santé. On va payer là pour les poumons noirs, on va payer pour les gens obèses, on va payer pour les gens qui font pas de sport. C'est encore plus dangereux. Le reste, ben choisissez vos sports selon vos goûts, selon vos il reste qu'on a tellement progressé dans le football, dans le hockey, ça frappe quasiment plus au hockey. Mm-hmm. Au football, moi c'est un des sports préférés là. Les règles sont rendues tellement sévères sur les contacts de casque à casque, les coups à la tête, la pénalité, là, roughing the passer, là, en français, je sais pas comment on dit
rudesse
ça.
Rudesse contre le quart.
Rudesse contre le quart arrière, c'est rendu tellement sévère. Mmh. Alors, oui, on a progressé, mais il y a encore des risques. Beaucoup plus de risques à ne pas faire de sport, pensez-y les
amis. Ça, c'est sûr. La femme d'Adonis Stevenson s'est prononcée sur Twitter ce matin, il y a deux heures maintenant.
Vas-y.
Je vais vous le lire. Évidemment, c'est en anglais. Je vais vous traduire en même temps que je lis. Alors, de la part d'Adonis et de toute notre famille, on aimerait vous remercier pour votre support chaleureux, vos pensées et vos messages envoyés au cours des derniers jours. Entre-temps, on vous remercie aussi de nous respecter dans ce moment difficile et de respecter notre vie privée, finalement, pour nous permettre de vivre sans paix. C'est un moment difficile. Adonis, c'est un combattant et il va continuer de se battre dans cette épreuve comme un champion. Et je vais faire tout en mon possible pour le supporter et l'aider à guérir le plus rapidement possible pour qu'il soit de retour avec notre famille. Merci encore pour le garder dans vos prières.
Bon, le reste à partir de là, moi, évidemment que ça a ouvert le débat sur le monde de la boxe, puis c'est bien correct, là, on a le droit d'en jaser. À partir de là, je pense qu'effectivement, il faut respecter un peu. Tu te souviens, David Whitton, la famille avait demandé à un moment donné de plus trop en parler, puis bon, dans leur cas, eux, ça a mal fini, mais je pense qu'il faut laisser vivre ça, il faut les laisser vivre ça.
Mais c'est quoi, avec le peu de nouvelles qu'on a sur l'état de santé d'Adonis, son tweet, je le trouve quand même encourageant, parce qu'elle ouvre la porte à ce qu'ils reviennent un jour dans leur famille. Fait que non, je trouve ça, évidemment, nous, on n'a pas beaucoup d'infos, mais le fait qu'elle écrive ça il y a deux heures, moi, je trouve ça encourageant, là.
Ouais. Et je répète, là, à ceux, je l'ai entendu en masse hier, c'est sûr que ça me faisait de quoi, parce que moi j'aime la boxe, mais c'est correct, je suis capable d'écouter les arguments contre. Là. Le coup qu'a donné sans manger, c'est comme pas normal.
Ouais.
Ça arrive pas d'habitude, c'est un ensemble de circonstances. Premièrement, il y a 41 ans.
Oui, il est pas jeune à donner.
Il était en fin de combat.
Ouais.
Il était, moi, j'ai revu comme faux l'onzième round, là, peut-être 2, 3, 4, 5 fois. Là. Honnêtement, il était pas solide sur ses jambes. Là. C'est pas un super boxeur, Adonis Stevenson. C'est un gars qui a, comme on dit en boxe, il a un fer à cheval dans les gants. OK? Mm. Il cogne, il a une force de frappe incroyable. Le reste, défensivement, techniquement, il est pas super fort. Il arrive à 41 ans, fin d'un combat de 12 rounds. L'autre va se dire que c'est une machine. OK? Alors, là, les circonstances ont mené à ça. En plus, il est dans le coin du ring. S'il avait été au centre du ring, il serait pas à l'hôpital le matin. Il aurait tombé bien avant. Mais là, le coin et les câbles l'ont retenu. Ouais. Ce qui fait que le dernier, le coup, ben,
il tenait plus,
fatal
là.
Pour le combat, là. Oh, pas ouais. Fatal dans le sens pour sa vie, là. Il est encore ouais. En vie, puis bon, on va souhaiter de s'en sortir. Mais le coup fatal, ouais. Il arrive là, la tête, il part par en arrière.
Ouais. Ses bras sont complètement tendus en bas, hein. Tu l'as vu, il n'y a aucune protection.
Alors, pensez pas que tous les combats de boxe, c'est ça, là. Non. Moi, j'ai rarement vu un coup aussi violent. C'est arrivé. Comme en F1, quand il arrive un accident, souvent, il y a un ensemble de circonstances qui fait que le char s'en va dans le mur, puis que, tu sais, garde. C'est comme ça. Alors, pensez pas que vous avez assisté à quoi, qu'il y a des coups de même à la boxe, à tous les gars-là. Ben, c'est pas ça du tout.
Et comme tu dis, si l'action s'était passée au centre du ring à ce moment-là, peut-être que l'arbitre aurait été mieux placé pour mieux voir dans quelle situation fâcheuse se retrouvait Stevenson.
Ah ouais,
il s'est intervenu peut-être juste avant le dernier coup de poing, qui a peut-être été le plus grave.
Mais là, il
même
faisait d'autres.
D'autres avant. Là.
Ouais, ouais. Mais là, Griffin, c'est Mike Griffin, c'est ça?
Oui, Mike Griffin.
Mike Griffin, il est placé, l'angle de vue, il est pas bon. Mais c'est pas de sa faute, on a le coin, ça bouge vite, puis un ensemble de circonstances ont amené ça.
Mais s'il avait arrêté le combat juste avant ce coup-là, l'arbitre, moi j'aurais été curieuse de voir quelle aurait été la réaction du public.
Mais je vous répète que les commotions cérébrales, il y en a plus au hockey, au football et au soccer. Je sais, quand on dit soccer, j'ai entendu Sébastien Gauthier hier sur l'heure du midi, c'était un bon débat avec Myriam et Luc, rappelait ça, puis c'était presque pas croyable, mais c'est parce que on oublie que les joueurs de soccer jouent avec leur tête.
Ouais.
Et à tout bout de champ, quand ils sautent pour récupérer le ballon, ils se frappent tête contre tête. Ça, là, pour suivre la boxe, Vest peut en témoigner. Oui, les coups de poing font, mais c'est les blessures en boxe, c'est souvent des coups de tête. Hein? Souvent, ouais. C'est les deux. Ça pardonne pas, là. Ben, au soccer, ça arrive. Ils ont pas de casque. On leur mettra pas des casques, là.
Non, non, c'est ça.
Mais ça arrive. Le football, évidemment, c'est documenté. Le hockey également. Il y a des risques dans tous les sports.
C'est ça.
Est-ce que tu te bats pareil en fin de l'autre semaine?
Oui, ben moi oui, je sais. J'ai vu Michel Laplante ce matin qui remet en question sa participation, puis je respecte ça tout à fait. Michel Laplante a vécu des épreuves aussi que j'ai pas vécues. Il a passé près de la mort dans l'accident d'avion, c'est-à-dire...
D'hélicoptère.
D'hélicoptère, excuse-moi, oui. Ouais. Alors, lui, il remet sa participation en question, puis c'est son droit complètement. Moi, on a reçu des textos tantôt qui me posent la question aussi, là. C'est pour ça que je vais y répondre. Moi, j'avais participé quand même pour la simple et bonne raison qu'évidemment, on n'a pas du tout la force de frappe qu'on a dans la boxe professionnelle. On a des casques et c'est d'abord et avant tout un événement caritatif dont le but, c'est pas de se péter la gueule. Là.
C'est aussi combien de rounds?
C'est 3 rounds de 2 minutes.
Ça compte aussi. Hein? Ouais. Que ce soit Whitom avait quel âge?
Il était pas jeune, il était pas loin de 40 ans.
Ouais, ah, ouais. Ouais.
Et c'était quel round?
C'était le dernier.
C'est le dernier aussi, oui, c'est ça?
Oui. Ah, oui. Je sais pas si vous regardez ça. Là. Oui. Le boxeur est fatigué, c'est à la fin de ronde, il y a un certain âge, le ronde de trop, le combat de trop, peut-être. Il y a des circonstances.
Il avait 39 ans, exactement.
Okay. David Whitom, bon, tu vois, il approchait de l'âge de Stevenson. Oui.
Puis, tu sais, à 39 ans, il n'a pas commencé à boxer 2 ans auparavant. Hein? Des coups à la tête, ça faisait quelques années qu'il en mangeait aussi.
Parce que lui, il était ce qu'on appelle des boxeurs de soutien.
Oui.
Là,
sous-carte,
oui. Ouais. Ça fait que dans la plupart de ses combats, il n'était pas le favori. Donc, il en a peut-être mangé plus que d'autres, lui.